La planèse du jazz, Laurent et Pascal Verdoux.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Nous voilà dans une période électorale délicate entre les deux tours et nous allons donc tenir aujourd'hui des propos extrêmement neutres, détachés du contexte.
Et bénin.
Donc nous allons nous réfugier dans notre cachette préférée qui est le dictionnaire des titres de jazz et de leur origine. Et nous en étions à la lettre S.
Alors ça commence mal pour les choses bénignes parce que le premier titre s'appelle The Salt Mines, ce qui veut dire les mines de sel. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les mines de sel. C'est pas un endroit particulièrement festif ni joyeux. Ça rappelle les pauvres gens qui avaient été obligés d'aller y travailler dans le fin fond du bout de la Russie.
En fait, c'était en Sibérie et il s'agissait de prisonniers politiques, chose tout à fait significative. On envoyait les prisonniers politiques dans les mines de sel sous le régime tsariste et l'usage s'est poursuivi sous le régime stalinien.
Oui, tout ça c'est des choses charmantes.
D'ailleurs, entre nous, elles sont peut-être toujours ouvertes, on ne sait pas, on n'y est pas allé voir. Toujours est-il que c'est passé dans le langage des jazzmen quand il faut en fait retourner au boulot.
Une petite pirouette pour dire, allez, on va bosser.
Back to the salt mines. Eh bien, c'est Buddy Tate qui a dû faire cette réflexion ou entendre un de ses musiciens à l'affaire quand, étant en régie et ayant écouté le morceau précédent, ils sont retournés dans le studio devant leur micro pour enregistrer le suivant que voilà.
Thank you.
vous a dit qu'on serait un peu plus léger, n'est-ce pas? Ben là, pas de chance. Parce que le morceau suivant s'appelle « Salute to Pine Top ». Et en réalité, c'est un hommage à Pine Top Smith, un pauvre gars musicien excellent, hein, mais tué d'une balle perdue au cours d'une soirée où il jouait.
Oui, c'était dans un bistrot où a éclaté une rixe, en fait. Il était très jeune, hein, encore à l'époque, et Pine Top Smith est considéré comme le premier pianiste de boogie qui ait existé. C'est une sorte de légende. Et j'ai même eu un copain du temps de mes études qui était fan de Boogie Woogie et qui dessinait très bien et qui avait dessiné un nombre infini de fois la scène où Pine Top Smith se fait tuer d'une balle perdue.
Eh ben dis donc, on va essayer d'être plus gai tout à l'heure. Ouais, hein.
Enfin, le copain, je l'ai perdu de vue, hein, et pas d'une balle. Et là, nous allons avoir le grand bonheur d'écouter un pianiste dont nous n'avons pas souvent l'occasion de diffuser de disques. Pianiste très original, capable de créer une atmosphère très spéciale. Il s'agit du père
Jimmy Yancey. Il a, Jimmy Yancey, une histoire un peu originale. Parce qu'au départ, c'était un petit danseur. Il faisait partie d'une troupe d'enfants qui, s'il vous plaît, a dansé devant le roi d'Angleterre. Mais oui, mais oui.
Et tout ça avant 14. C'est-à-dire que c'était un roi George, je ne sais plus lequel. C'était plus la reine Victoria, mais tout juste. Et puis après, il est devenu pianiste de blues et de boogie. Et on connaît naturellement cette fameuse photo avec la grande casquette et cet air perpétuel qu'il avait d'être totalement ailleurs. C'est un très grand bonhomme, Jimmy Yancey. Le voici donc dans...
Salut tout Pine Top. Maintenant, on va vous parler d'une dame très rigolote. Ah, enfin quelque chose d'un peu gay là, hein. C'était la femme de Johnny Hodges. Et elle avait un surnom, c'était Sassy Q. Sassy, ça veut dire, oh là là, quelqu'un qui est complètement débordant d'énergie, un peu très très speed.
Très speed, mais également avec un côté ado.
Oui.
C'est l'énergie juvénile, Sassy. Et Q, ben, c'était son nom, de jeune fille, c'était Q Porter.
Donc, c'est si Q, on l'appelait.
Nous ne la connaissions pas jusqu'au jour où nous avons eu l'occasion de prendre un pot à une table où se trouvait Rodgers lui-même. C'était un pot d'Ellingtonien. Hein. Rodgers lui-même, donc le premier alto de l'orchestre Ellington. Ben Webster, l'énorme Ben Webster, saxophoniste ténor. Cat Anderson. Et puis, il y avait la femme de Johnny Hodges, justement, Madame Q.
Et là, je ne sais pas pourquoi, elle s'en est pris à Ben Webster, qui est une espèce de gros ours placide. Et alors, moitié riant, moitié furieuse, elle lui a lancé son sac sur la, quasiment sur la tête.
Oui, elle a entrepris de l'assommer, un coup de sac à main, en fait. Et alors, il faut vous figurer la scène, parce que Sassy Q, c'était une petite bonne femme toute sèche.
Teinte en roux, bien sûr.
Teinte en roux, mais alors un rinçage rouquin violent, avec des lunettes papillon et une voix assez criarde. Elle voulait le faire taire, en fait, Ben Webster. Il allait dire quelque chose qui ne lui plaisait pas. « Shut up, Ben !» Et elle lui tapait du coup de sac à main. Et là, nous avons vraiment compris ce que veut dire « Sassy ».
Mais elle devait avoir des bons côtés, cette Sassy, parce que finalement, Lawrence Brown et Johnny Hodges ont décidé de faire un morceau rien que pour elle, qu'ils ont appelé donc « Sassy Q ».
Alors, vous allez entendre ce morceau et on peut compléter ce petit portrait et ses affinités par le fait que le jour où Johnny Hodges a enregistré un disque anonymement, c'est-à-dire sans donner son vrai nom pour des raisons de contrat, il a choisi comme pseudonyme Q,
Q.
Porter, le nom de sa femme. Ça, c'est Q. Thank you.
De Sassy, on passe à Saturday. Saturday, vous savez, c'est le samedi. Ah, c'est le bon moment. C'est le moment où on a fini de bosser et où on peut s'éclater en allant danser. Et là, c'est Saturday Night Fish Fry. Saturday Night, on comprend tous, hein, c'est la nuit du samedi. Et puis Fish Fry, ah là là, ça c'est quelque chose que les Américains, surtout dans le Sud, adorent. C'est le poisson frit.
Bon, en fait, c'est une sorte de barbecue entre voisins où on danse et on fait de la musique. Et c'est très pratiqué, comme tu disais, dans le sud des États-Unis, dans certaines petites villes.
Venez manger mon poisson frit avec moi. Hein.
Voilà, voilà, exactement. Et là, nous avons eu le plaisir d'être renvoyés à un 45 tours que nous emportions dans les surprises parties à l'époque. Un 45 tours de Louis Jordan.
Parce que c'est très punchy. Hein. C'est à la fois simple, direct et très dansant.
Lou Jordan, c'est le premier ancêtre du rock'n'roll, en fait. C'est vraiment le précurseur, saxo alto et chanteur avec des paroles souvent très amusantes, et celles-là en font partie, puisque Lou Jordan va vous détailler tous les événements qui peuvent se passer, des plus courants, plus inattendus, lors d'une partie de friture du samedi soir.
Now if you ever been down to New Orleans, then you can understand just what I mean. Now all through the week it's quiet as a mouse, but on Saturday night they go from house to house. You don't have to pay the usual admission if you're a cook or a waiter or a good musician. So if you happen to be just passing by, stop in at the Saturday Night Fish Fry. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. Now my buddy and me was on the main stem, fooling around just me and him. We decided we could use a little something to eat, so we went to a house on Rampart Street. We knocked on the door and it opened with ease, and a lush little miss said, "Come in, please." And before we could even bat an eye, we were right in the middle of a big fish fry.
It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn.
Now the folks was having the time of their life, and Sam was jiving Jimmy's wife, and over in the corner was a beat up grand being played by a big fat piano man. Now some of the chicks wore expensive frocks, some of them had on bobby socks, but everybody was nice and high at this particular Saturday Night Fish Fry.
It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn.
Now my buddy and me, we fell right in and we hollered, "Let the joy begin." Now we figured this was a good place to play, 'cause the party was already underway. But all of a sudden the lights went low, and everybody made straight for the front door. Man, I was so scared I didn't know where to go. I stood right there, then I fell on the floor.
It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn.
Now the women was screaming and jumping and yelling, the bottles was flying and the fish was smelling, and way up above all the noise they made, somebody hollered, "Better get out of here, this is a raid." I didn't know we were breaking the law, but somebody reached over and hit me on the jaw. They had us blocked off from the front to the back, and they were putting them in the wagon like potato sack.
It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn.
I knew I could get away if I had a chance, but I was shaking like I had the St. Vitus dance. Now I tried to crawl under a bathtub when the policeman said, "Where you going there, bub?" Now they got us out of there like a house of fire, put us all in that black mirage. Now they might have missed a pitiful view, but they got both me and my buddy too.
It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn.
We headed for jail in a dazed condition. They put each one of us on suspicion. Now my chick came down and went my bail and finally got me out of that rotten jail. Now, if you ever want to get a fist in your eye, just mention a Saturday night fish fry. I don't care how many fish in the sea, but don't ever mention a fish to me.
It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn. It was rocking, it was rocking. You never seen such scuffling and shuffling till the break of dawn.
Give me one of them there fish sandwiches.
Get away from that, boy.
Il y a dans toutes les soirées des personnes que les musiciens retrouvaient pratiquement de samedi ou dimanche, en samedi et dimanche, c'était les fans, ce qu'on appelle aussi les groupies. Celle-là, elle était tellement toujours là qu'on lui avait donné à elle-même un surnom. On l'avait appelée Seagull, c'est-à-dire la mouette.
C'est un oiseau accompagnateur de bateau et c'est comme ça que dans la Navy, on surnommait les femmes qui suivaient la flotte de port en port, par d'autres moyens que la mer d'ailleurs, quelquefois, par l'avion, par le train, par n'importe quoi. Et elles retrouvaient de port en port leur mari en permission, à moins que certaines en aient fait un itinéraire qui s'apparenterait à celui de Mélina Mercouri dans Jamais le dimanche, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai connu une femme qui était abonnée aux revues de jazz pour savoir où avaient lieu les concerts afin de pouvoir y exercer
son petit commerce.
Voilà. Nous n'en dirons pas plus pour ne faire de tort à personne. Là, nous allons aller en Angleterre écouter un orchestre anglais, plutôt Dixieland comme genre, et il joue donc ce Seagull Strut. Et il faut savoir d'ailleurs que le Seagull Strut en question est un morceau qui n'a pas été composé par l'orchestre de Pete Allen. Il l'a piqué dans le répertoire de Bob Helm, saxophoniste de San Francisco, qui était, lui, un petit peu accablé de cette fameuse groupie surnommée la mouette.
Seagull Strut. titre suivant rentre carrément dans le détail vestimentaire, puisqu'il s'appelle Serenade to Nichols Mink Coat. Ce qui veut dire le mink coat, c'est le manteau de vison. Waouh ! Et qui est cette Nicole qui possède un si beau manteau de vison, puisqu'on en a même fait une sérénade ?
C'est une dure bosseuse, mais n'allez pas vous imaginer des choses. En réalité, la Nicole en question était la première femme de Eddie Barclay.
Eddie Barclay, il s'appelait Eddie Barclay comme moi je suis évêque, puisque son vrai nom c'était
Édouard Ruot.
On peut pas être plus français, n'est-ce pas ?
Il faut vous dire qu'Eddie Barclay, au départ, était un pianiste de jazz, quand il était tout jeune, mais un pianiste de jazz qui avait un sens des affaires particulièrement affûté. Et il avait avec lui une femme qui était un monstre de boulot, une travailleuse absolument incroyable.
La fameuse Nicole.
C'était un peu un couple de limonadiers montés de l'Aveyron. Hein. C'est un peu le même genre de tandem. Hein. C'est vraiment des bosseurs. Alors, juste après la guerre, ils ont trouvé que le marché du jazz, c'était quelque chose qui était
porteur.
Parce qu'à l'époque, le jazz était un peu partout. Et ils ont donc monté leur petit commerce en faisant venir des disques de petites marques américaines et en faisant commerce donc en France. Et à l'époque, ils avaient une petite camionnette et ils faisaient les livraisons eux-mêmes, je ne sais pas si vous voyez. Puis ça a tellement bien marché qu'il est devenu impresario, qu'il a monté sa propre marque de disques et que tout ce petit monde s'est retrouvé un jour au studio Vogue pour enregistrer Lionel Hampton. Et Nicole Barclay, naturellement, l'affaire ayant prospéré, s'y est pointée avec un magnifique manteau de vison. Le manteau de vison, c'était le standing des dames à l'époque.
Ah oui, ça, si on avait un manteau de vison, on pouvait carrément rentrer partout, même jusqu'à l'Élysée. Vous voyez ce que je veux dire ?
Pauvre vison. Et donc, un des morceaux enregistrés par Lionel Hampton ce jour-là a été
Serenade to Nichols Mink Coat. Thank you.
Et maintenant, nous plongeons dans l'univers sombre de la sorcellerie et peut-être même du vaudou.
Si la petite Nicole, elle a bien gagné son vison en aidant son Neddy Barclay de mari. Par contre, il y a des femmes qui sont moins sympas, hein, et puis qui sont tellement pas sympas que le bonhomme, il se demande si tous ses ennuis viennent pas de là. Et c'est justement le titre que vous allez entendre. She put the whimmy on me. The whimmy, c'est le mauvais œil. Elle m'a jeté le mauvais œil. Wouh!
Et celui qui a reçu le mauvais œil en question,
c'est Freddie King,
guitariste et chanteur de blues. Et dans le morceau qui vient, donc, dont tu as donné le titre, il détaille même la manière de donner le mauvais œil. Alors nous, nous avons compris de quoi il s'agit et comment on fait, mais nous n'allons pas vous le dire, parce que Radio Marjorie n'est pas là pour propager les mauvais usages.
Et les mauvaises ondes.
I could forget about you, baby, I wouldn't be in so much misery. Yes, if I could forget about you, baby, I wouldn't be in so much misery. Yes, but I think I understand, baby. You must have put your whammy on me. Yes, I finally found out, baby, why I just can't let you go. Yes, I just found out, baby, why I just can't let you go. Treat me like this, I just don't know. Yes, I know you got someone else, baby. That's why my heart feels like this. Yes, I know you got someone else, baby. That's why my heart feels like this. Put your whammy on me. Sometimes I drink all day. They say help you to forget. Sometimes I drink all day. They say help you to forget.
Alors là, c'est quelque chose de bien joyeux, hein. C'est le mariage de Sidney Bechet.
Et oui, est-ce comme Sidney ?
Et il faut savoir que Sidney Bechet, avant de se marier, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites copines. Mais il y en a une qui est quand même arrivée à lui mettre le grappin dessus. Et on va vous parler de Sidney's Wedding Day. C'est-à-dire le jour du mariage de Sidney.
Le mariage de Bechet, ça a été toute une histoire. D'abord, ça s'est passé à Antibes. Et à Antibes, il y a encore l'endroit où on a fait la fête avec un buste de Sidney Bechet. Ça s'est passé le 17 août 1951, mais l'heureux élu, il le connaissait depuis 1928.
Donc il a eu le temps de la réflexion, vous voyez.
Ah, c'est sûr.
Et comme je vous disais, le temps de quelques copines annexes.
Présentes et très nombreuses, effectivement. Mais cette Elisabeth Ziegler, en fait, il l'avait rencontrée avant-guerre, en Allemagne. Tu sais qu'avant la montée du nazisme en 1933, le jazz était très très prisé en Allemagne. Et donc, Sidney Bechet, comme beaucoup d'autres Noirs américains, a eu l'occasion d'y aller. Alors après, les choses se sont grattées et c'est peut-être là qu'il a perdu de vue cette chère Elisabeth qui, en 1928, à Francfort, était habilleuse au théâtre où il avait joué. Enfin, le mariage de Sidney Bechet, on en parle encore. Hein. Je connais des gens qui ont assisté.
Oui, c'était des Français, souvent, puisque ça se passait en France.
C'était une bringue extraordinaire. Et il en est resté un souvenir enregistré avec les deux clarinettistes et chefs d'orchestre qui l'ont accompagné pendant la plus grande partie de sa carrière française dans les années 50, donc, c'est-à-dire
Claude Luther
et André Réveliotti.
Thank you.
Le titre suivant, eh bien, c'est une adresse française. 65 faubourgs. Nous n'en dirons pas plus parce qu'en réalité, c'est le titre exact.
65 faubourgs, disait-il.
Voilà. Mais en réalité, c'est 65 faubourgs du Moustier où habitait le célèbre Hugues Panassier, critique de jazz, un ami de tous les musiciens américains. Honnêtement, je crois que tous, un jour ou l'autre, ont joué pour lui, pour ses enregistrements, ou même pour lui-même, pour ses festivités. Enfin, voilà, c'était le grand homme de ces gens-là.
Et d'ailleurs, c'est un grand homme qui leur a consacré sa vie, hein. Il faut dire ce qui est. Et il faut ajouter que le 65 Faubourg du Moustier se trouvait dans la bonne ville de Montauban, pas trop loin de chez nous finalement. Et que l'auteur de ce solo de piano, dédié donc à Hugues Panassier, n'est autre que le grand Earl Hines. Alors nous, nous ajoutons, parce que nous avons toujours un petit pincement quand on parle du 65 Faubourg du Moustier, parce que, pour ne rien vous cacher, c'est là qu'autour de notre 19e année, nous avons énormément appris sur cette musique-là, dans des stages que Panassier lui-même organisait dans une pièce qui est restée légendaire, puisque c'était aussi sa discothèque, et qu'il enseignait au milieu de 15 à 20 000 disques. C'était assez étonnant comme endroit.
Alors il tendait une main en disant, parce qu'il était un peu handicapé, donc il y avait quelqu'un qui était en général préposé à aller chercher le disque, il tendait une main là, puis disait troisième, quatrième, cinquième, sixième, c'est là. Sur les 25 000, connaissait tout.
Et là, il fallait attraper une pile de 78 tours, la lui porter, en prenant attention de ne pas se prendre les pieds dans le tapis.
Et oui, parce que ça se casse facilement, ouais. Les 78 tours.
Nous n'en avons quand même jamais cassé un seul. Hein.
Absolument.
Il faut dire ce qui est. Et donc, de cet endroit qui est devenu mythique, hein, voici Earl Hines au travail sur son piano. 65 Faubourg. Maintenant, rendez-vous sur les ondes de Radio Marjorie le mercredi à 17h30, puisque le morceau suivant s'appelle
Soul Station. Soul, c'est l'âme, c'est le cœur, c'est le sentiment. Et Station, ben, c'est la radio.
C'est la station.
Et les Américains, d'ailleurs, souvent, ils emploient le terme « musique soul », ce qui veut dire une musique qui prend le cœur, qui se sert de l'âme.
C'est une manière de jouer qui a fini, d'ailleurs, par donner son nom à un certain style de musique illustré par Ray Charles ou Aretha Franklin, hein, la soul music. Mais là, nous sommes un petit peu avant, et il n'est question que de Soul Station. Finalement, c'est une station de radio.
Oui, qui passe de la bonne musique.
Alors, comme vous voyez, la boucle est bouclée, vous êtes en ce moment sur une sorte de Soul Station et avec l'immense guitariste
Tiny Grimes.
Thank you.
C'était la planète du jazz.
À la planète prochaine.